Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumo.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Weekend. Montre-moi ton équipe, je te dirai qui tu es. C'est Gérald Carsenti, le patron de SAP France, qui nous donne tous ses secrets pour bâtir une équipe qui gagne malgré un contexte de recrutement assez tendu. On va continuer à parler d'équipe en zoomant sur le moral des managers avec deux invités. Le premier, c'est David Mahé, le fondateur de Human and Work. Et la seconde, c'est Delphine Cochet, la fondatrice de Ma Bonne Fée. Prendre le pouls de nos managers, de leur morale, pourquoi c'est important et pourquoi c'est important pour les managers et les managers des managers. Et puis, pour finir cette émission, on parlera de ce chiffre hallucinant. Un cadre sur 7 a découvert bancaire à cause de ses notes de frais. Comment c'est possible? Eh bien, c'est Tristan Le Tertre, le fondateur de Mooncard, qui viendra nous expliquer comment les notes de frais sont toujours le point irritant de la vie de l'entreprise.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et cette semaine, on revient sur le problème des entreprises. Vous savez, c'est le recrutement, mais aussi évidemment le management des gens qu'on recrute et qu'on arrive à garder dans ses équipes. On va répondre à quelques-unes des interrogations avec Gérald Carsenti. Bonjour Gérald.
Bonjour.
Vous êtes le président de SAP France et on vous reçoit ce week-end parce que vous venez de publier un livre. Alors je vous fais un petit peu de promo. Le livre s'appelle « L'art de bâtir une équipe ». Et avec vous, eh bien, on apprend plein de choses de votre expérience, de vos rencontres, mais aussi de votre vie de manager sur comment gérer une équipe. Alors, une des phrases que j'ai retenues de votre livre, c'est celle-ci. Montre-moi ton équipe et je te dirai qui tu es. D'où elle vous vient cette phrase et quels enseignements on peut partager avec ceux et celles qui nous écoutent?
Cette phrase est importante parce qu'en réalité, on a une tendance à recruter avec un certain nombre de critères qui parfois sont très personnels. On a cette fameuse tendance en France, je dirais plutôt en Europe, mais on va dire en France notamment, qui se ressemble, s'assemble. Et on a une petite tendance à aller chercher des personnes qui nous ressemblent. Alors peut-être parce que ça nous rassure d'avoir des personnes qui viennent des mêmes écoles, des mêmes entreprises, qui sont passées par les mêmes circuits. On a probablement une communauté de pensée. Mais la réalité, c'est que le monde d'aujourd'hui est devenu tellement complexe qu'il faut au contraire aller chercher la diversité. Il faut aller chercher des personnes très différentes pour capter toutes les opportunités du marché. Donc quand on présente une équipe, c'est très simple. On voit si la personne est une personne ouverte, créative, qui va chercher des gens qui vont le bousculer, qui vont pas être, entre guillemets, mais positivement, des bénis oui-oui, des gens qui vont aller dans son sens, qui vont lui dire exactement ce qu'elle a envie d'entendre, mais qui vont au contraire apporter de nouvelles idées, etc. Ou alors une équipe qui n'est pas du tout diversifiée.
Alors, est-ce que vous avez une définition de l'équipe idéale type? Celle que vous avez peut-être expérimentée dans votre carrière ou peut-être celle que vous avez imaginée théoriquement?
Alors, l'équipe pour moi idéale, déjà, elle commence par une diversité homme-femme, déjà, pour commencer. C'est-à-dire que c'est même un chapitre de mon précédent livre, le cinquième, Leader du troisième type, et j'ai repris dans celui-ci, à savoir, voici venu le temps des femmes. C'est-à-dire que je pense que l'époque va jouer pour une balance entre les hommes et les femmes. Il ne faut pas qu'il y ait non plus que des femmes, hein, ce n'est pas l'objectif, mais il faut qu'il y ait une balance. On est loin de la balance aujourd'hui. Donc, déjà, une équipe idéale, c'est une équipe qui a cette diversité-là. Ensuite, une équipe qui a des types de leadership qui sont différents. Des styles de leadership différents. Si on n'a que des visionnaires, on va passer son temps à discuter, à échanger, chacun voulant avoir raison sur l'autre. Si on n'a que des profils un peu plus coercitifs, un peu plus batailleurs, ça va être la cohue. Donc il faut équilibrer avec des profils qui sont coach, qui sont des profils qui viennent de différents horizons, qui ont des approches différentes. Et du même problème, on peut en tirer différentes options et différentes solutions.
Alors visionnaire, coercitif et coach, vous avez cité quelques-uns des profils profil du modèle qui a été théorisé par Goldman. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme profil de gens qu'on peut mettre dans son équipe ?
Alors en fait, il y a 6 styles de leadership, hein, et globalement, on sait qu'on n'est pas un style et un seul. C'est-à-dire que personne va être... Enfin, on peut être dominant sur un style, mais généralement, on est une combinaison d'un, deux... voire 3 styles. Alors ces styles, le principal c'est le visionnaire parce que c'est celui qu'on retrouve chez tous les leaders en général, mais après il y a effectivement le coercitif, c'est un peu particulier le coercitif parce qu'on se dit mais pourquoi le coercitif est un style ? Bah, dans certains contextes, une entreprise en difficulté, ça peut avoir un intérêt. Après il y a le coach qui évidemment développe les autres, il y a le chef de file qui est plutôt dans l'exécution, c'est quelqu'un qu'on va retrouver dans les états-majors, et il y a l'affiliatif ou le participatif qui sont plus dans un mode de collaboration. Donc vous voyez, on trouve 6 styles différents. Et puis, ben, c'est intéressant de les connaître parce que quand vous avez à remplacer quelqu'un ou à composer une équipe, eh ben, vous allez chercher à la diversifier en tenant compte de ces styles de leadership.
Alors, 6 styles de leadership, je ne peux que vous poser la question, quel est le vôtre ?
Oh là, alors là, c'est plus compliqué. Moi, je pense que j'ai bon, certainement... quelque chose de un peu visionnaire, j'espère. C'est aux autres de juger, mais certainement. Après, je pense que j'ai quand même dans mes fibres quelque chose qui est très coach. J'aime bien accompagner les autres, j'aime bien détecter des talents et les faire éclore, on va dire, et en particulier les femmes, parce que évidemment je mets en pratique ce que je crois. Je crois que on est dans une société qui a été construite par des hommes pour des hommes et qu'il faut une autre société. Et donc voilà, je pense que j'ai un peu de ces deux-là.
Alors aujourd'hui, vous êtes le président de SAP France, mais vous avez une longue carrière dans la tech. Vous êtes passé chez IBM, chez HP, aussi chez Capgemini à la française. Pourquoi avoir attendu votre époque SAP, si je puis dire, pour écrire ce livre ?
Alors d'abord parce que ce livre, c'est le sixième. Donc vous savez, quand on écrit, on rentre dans c'est une sorte de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une logique. Et donc celui-là s'inscrivait en prolongement du précédent qui traitait du leader. En fait, quand j'ai écrit le précédent, leader du troisième type, je suis arrivé à une conclusion très simple. Un leader, c'est super important, mais seul, il ne peut rien. Il lui faut une équipe. Donc c'est la notion d'équipe est venue derrière, d'où le livre.
Le postulat d'ouverture de votre livre, c'est que fonder une équipe, c'est l'acte fondateur du manager, du dirigeant. On va mettre les choses en perspective pour conclure. On est dans un contexte extrêmement compliqué pour recruter, pour attirer, pour maintenir les talents. Est-ce que vous avez une intuition, quelque chose que vraiment les gens que vous avez interviewés vous ont tous dit et qui n'est pas assez su ?
Moi, je pense que ce qui est dans... Je fais appel à 17 personnes, à 17 contributeurs dans le livre.
Vous en citez quelques-uns. Vous avez interrogé Jean-Pierre Mazoyer, Didier Michaud, Daniel de Veritas. Vous avez aussi interviewé Olivier Marchal de chez Bain.
Pierre Barnabé de Soitec. La préface est de Maud Bailly, jeune femme remarquable. Et donc, on a des leaders qui viennent un peu de partout, l'ancienne ministre Elisabeth Moreno, enfin, des profils un peu qui viennent de partout. La constante, vraiment, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'on revient sur le critère, le capital humain. Et on se rend compte à quel point les femmes et les hommes dans une entreprise, dans une institution, dans un gouvernement, peu importe de quelle entité on parle, les hommes et les femmes font la différence. Et alors moi, je viens du monde technologique, donc je ne vais pas vous dire que la technologie, ce n'est pas important. Ça l'est, bien entendu, mais la technologie seule ne peut rien non plus. Il faut des hommes pour changer, pour accompagner les changements, pour impulser des choses nouvelles, pour motiver et inspirer les autres. Et je crois que ça, c'est le message que j'ai retenu, message principal, en tout cas, que j'ai retenu.
Il y a un dernier mot sur lequel je voudrais qu'on revienne pour conclure cette séquence, c'est le mot bienveillance. On le sert à toutes les sauces dans le mode de l'entreprise en ce moment. Il faut être bienveillant, on nous remercie parce qu'on est bienveillant, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cet adjectif et comment il peut avoir des aspects non pas bienveillants, mais utiles ?
Alors, la bienveillance n'est pas à confondre avec la gentillesse. Ce n'est pas la même chose. Et la bienveillance, si on ne la dissocie pas de la performance, a toute sa valeur et son importance. On peut être bienveillant en cherchant la performance. Et même, je dirais que c'est presque nécessaire. Quand vous êtes bienveillant, si vous avez le sentiment qu'un manager n'est pas à sa place, eh bien, vous allez le changer d'abord pour l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs, bien sûr, qui dépendent de cette personne, mais pour aussi cette personne. Parce que si elle n'est pas bien, elle n'est pas bien. Et vous allez la mettre ailleurs, dans un autre job, et on trouve toujours un job qui nous convient. Donc la bienveillance, c'est simplement de ne pas traiter les choses avec brutalité. On est dans un monde très court-termiste, on est dans un monde avec des exigences immédiates et donc qui amène parfois un peu de brutalité, entre guillemets. Eh bien, je crois que les gens bienveillants, et ce qu'on aura de plus en plus, des managers, des leaders qui seront dans la bienveillance, c'est-à-dire dans la collaboration et dans le collectif, eh bien, ces personnes vont rééquilibrer les choses et vont redonner de l'importance à l'homme.
Voilà, c'était les messages de Gérald Carcenti, le président de SAP France et puis l'auteur de L'Art de bâtir une équipe aux éditions Erol. On va continuer de parler de leaders puisqu'on va s'intéresser aux cadres, aux managers et à leur morale. Restez avec nous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
On va continuer à parler d'équipe en s'intéressant au moral de ceux qui les dirigent, puisqu'on va zoomer sur les cadres. On va faire ça avec deux personnes. D'abord avec Delphine Cochet, qui est la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Bonjour Delphine.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous. Et puis avec David Mahé, vous êtes le fondateur de Human & Work.
Bonjour Lorraine.
Alors première question pour vous. Avec la rentrée, on parle beaucoup du moral flanchant des cadres. Est-ce que David, vous pouvez nous chiffrer ce moral? Est-il vraiment en berne? Est-il vraiment en train de dégringoler?
Oui, on a des entreprises, une période de forte tension, une grosse fatigue qui se traduit par des niveaux de stress, par des niveaux d'anxiété, par des inquiétudes par rapport à l'avenir et par rapport au contexte. Donc c'est une fatigue qui est différente de celle qu'on a connue il y a deux ans avec la crise sanitaire, mais qui fait finalement que beaucoup de choses se sont ajoutées en quelques mois. Et il y a effectivement une vraie inquiétude dans les équipes.
Une vraie inquiétude qui s'inscrit dans un contexte qui dépasse celui de l'entreprise, un contexte extrêmement anxiogène. Est-ce que vous pouvez nous le caractériser, David?
Je dirais qu'il y a eu, depuis trois ans, il y a eu une accumulation de bouleversements absolument imprévisibles qui crée finalement, dans les entreprises, une difficulté à prévoir l'avenir. On est dans la réaction. Alors, on a eu un virus, après on a eu de l'inflation, après on a eu une croissance excessive, après on a eu des moments d'inquiétude géopolitique, maintenant c'est des problèmes d'énergie, des problèmes d'approvisionnement, les lignes logistiques. Donc finalement, on se retrouve confronté à une multitude de bouleversements et de bouleversements très importants qui font que finalement on a une visibilité qui est nulle. Et quand on ne sait pas trop où on va, eh bien, on a besoin de se référer à quelque chose. Et c'est un peu le rôle du manager, justement.
Alors justement, des bouleversements à la fois professionnels et puis personnels. Comme ça, la frontière vie privée-vie perso, est-ce qu'elle n'est pas encore plus fine qu'avant, Delphine?
Alors, je ne sais pas si elle est plus fine, mais en tout cas, on l'a rendue plus visible. Et puis, il y a énormément de thématiques sur lesquelles on en parlait récemment. On sait que bientôt, un quart des salariés seront aidants. On parle beaucoup de parentalité, on parle de stress professionnel, de surmenage. Tous ces enjeux, ils mettent les équipes et les managers inclus dans des moments de fragilité que l'entreprise a, en tout cas, comme rôle d'accompagner.
L'APEC a chiffré l'inquiétude des professionnels par rapport à la situation notamment économique. La part des cadres inquiets par la situation de la France progresse de plus de 10 points par rapport à il y a un an. C'est quand même assez monstrueux. Alors ça se chiffre aussi, l'impact du moral des managers, du moral des cadres sur l'économie. Vous avez fait un peu vos devoirs, Delphine, pendant la semaine et vous avez pollardé une thèse. Est-ce que vous pouvez nous remonter quelques éléments de cette thèse?
En fait, j'aimerais bien parler de l'excellent travail du maître de conférence Thibaut Perrin, où en fait, sa thèse, il y a un chiffre à retenir, c'est que si on arrivait, si les entreprises, en tout cas si les équipes, avec plus confiance en leurs dirigeants, en leurs managers, on créerait 8 points de PIB en plus en France.
8 points.
Voilà. Donc toute la question, c'est comment on crée cette confiance, qu'est-ce qui la caractérise? Et là-dessus, il y a trois critères, en tout cas, qu'il a déterminés pour caractériser la confiance, qui sont la crédibilité du manager, sa clarté. Donc là, on retombe sur ce que disait David, sur aussi le sens de l'entreprise. Et puis le dernier, c'est la bienveillance. C'est comment on crée cet écosystème pour le manager, pour que la confiance se crée. Et il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est que cette confiance, elle doit être le résultat de deux parties qui ont la volonté de montrer leur vulnérabilité. Donc je rejoins un petit peu le sujet qu'on venait d'aborder juste avant, c'est comment aussi on crée un cadre d'entreprise où le manager peut montrer ses vulnérabilités, et tout comme le collaborateur, pour créer cet environnement de confiance.
Alors, vous parlez d'intimité presque. Néanmoins, on n'a pas forcément envie de s'appuyer sur un manager qui nous raconte toute sa vie perso. Alors comment on gère cette difficulté, complicité, discussion informelle et en même temps management, sans être forcément très hiérarchique et très vertical, comment on fait, David ?
Je crois que le principal, déjà, c'est de parler du travail. C'est-à-dire qu'on parle, on parle jamais assez du travail. Et le rôle du manager, c'est quand même d'être finalement l'expert, ou en tout cas le spécialiste du travail. Le deuxième point, c'est de savoir pourquoi on est là. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, le manager, il doit être capable de donner une direction, du sens au travail. Il doit être capable également de gérer une équipe dans des contextes d'incertitude. Et il faut que concrètement, on puisse s'ajuster, réagir, adapter des stratégies. Et puis enfin, il faut qu'il puisse définir une façon de travailler. Parce que quand ça tangue, et en ce moment, ça tangue fort dans les entreprises, eh bien, il y a quand même besoin d'ajuster la façon de communiquer, la façon de se comporter, la façon de ne pas s'énerver, même sous forte pression. Et ça, je crois que c'est la responsabilité du manager et la compétence du manager.
Et pour compléter, je dirais aussi, c'est quels outils on met à disposition des équipes. L'intimité, ça ne veut pas dire on se livre au bureau sur ses fragilités. Ça veut dire qu'on a créé, moi, j'aime bien parler de la bulle de confiance qu'on représente avec Ma Bonne Fée, et c'est pareil chez Human & Work. Qu'est-ce que j'ai comme outil en tant que manager? Où est-ce que je peux aller créer cet environnement, ou en tout cas cette ressource? Quelles sont les ressources qui sont à disposition de mes équipes, qui sont à ma disposition pour aller justement trouver des réponses dans des moments de fragilité, pour que derrière, de toute façon, le vrai sujet, c'est comment je peux être, mes équipes peuvent être plus productives. Parce que c'est tout l'enjeu du manager, c'est un peu ce que je dis souvent, entre le marteau et l'enclume, c'est la pression des instances dirigeantes actionnariales versus la pression aussi des équipes. Donc c'est vraiment réconcilier ça aussi, et quels outils j'ai à ma disposition.
Je vais partager avec vous un témoignage d'Isor qui m'a écrit sur LinkedIn. On parle toujours et souvent de recrutement. Si vous me suivez, vous savez, c'est un de mes chevaux de bataille. Alors, elle m'écrit « Le manque de candidats est le seul obstacle au recrutement dans ma PME, mais tout l'effort porte sur moi. Tout l'effort porte sur moi. Comment intensifier l'effort de recrutement collectif ?» Ça, c'est un des cas où on sent que l'auditrice, elle est un peu débordée à la fois personnellement et professionnellement. Comment vous adresseriez le cas d'Isor si c'était votre client David et vous
Vous avez beaucoup, beaucoup d'entreprises dans lesquelles aujourd'hui, le problème principal, c'est la qualité des équipes, c'est la capacité à recruter. La capacité à recruter, ce n'est pas que la responsabilité d'un manager. C'est l'attractivité de l'entreprise, c'est ses valeurs, c'est sa capacité à finalement être perçu comme un employeur de qualité. C'est aussi la capacité à embarquer une aventure sympa, parce que les gens ont envie quand même que leur vie professionnelle soit sympa et pas uniquement de l'effort et de la souffrance. Donc je pense que l'entreprise a une grosse responsabilité pour justement réussir des recrutements. Et derrière, le manager fait un peu avec les moyens qu'il a. Mais en ce moment, il y a une forte tension sur les ressources. Et le manager, effectivement, est un peu l'élastique qui gère cette pénurie.
Alors, tout l'effort sur elle ?
Alors, moi, je dirais déjà, il y a un chiffre assez parlant qui dit que 50% des démissions sont liées au management, au manager. Donc, alors, c'est comment je crée aussi un environnement qui fait que je suis... En tout cas, je fais attention à ce qu'il y ait peut-être moins aussi de départs pour avoir déjà moins à remplacer. Est-ce que j'ai créé toutes les conditions et est-ce qu'on m'a donné les moyens de créer toutes les conditions pour le faire? Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, comme le disait très justement David, c'est tout ce qui va rayonner autour de la marque employeur, ce qui fait que je montre que je suis une entreprise à la pointe de l'innovation sociale et que je favorise l'épanouissement professionnel, personnel, en tout cas dans ma structure.
Pour conclure, on peut se dire que pendant la crise sanitaire, on a beaucoup, beaucoup parlé de santé mentale, de risques psychosociaux, de morale, de mental. On en parle un peu moins. Qu'est-ce qui reste concrètement de la crise et qu'est-ce qui a été intégré au niveau managérial et peut-être RH dans les entreprises ?
Bon, d'abord, pendant cette période, le fait que la santé mentale soit devenue un sujet pour l'entreprise, c'est plutôt un progrès. Le fait de prendre soin des gens, prendre soin des équipes, prendre soin des organisations, c'est plutôt un bon réflexe quand on est un leader d'entreprise. Maintenant, il y a aussi des vrais sujets qui ont trait au sens du travail, qui ont trait à la qualité du management, qui ont trait finalement à la façon d'organiser le travail et si possible de produire du plaisir au travail. Et dans le contexte d'aujourd'hui, c'est particulièrement important. Alors certes, on parle peut-être un petit peu moins de crise sanitaire ou de crise grave, mais on a quand même une période qui est très anxiogène dans les entreprises et il faut quand même veiller à prendre soin des gens.
Delphine, qu'est-ce qui reste de la crise? Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon?
Moi, je pense que ce qu'on a tiré comme leçon, c'est ce que je disais un petit peu en préambule, c'est de quelle manière on se rend compte qu'en fait, les fragilités, qui peuvent être la santé mentale, mais qui peuvent être aussi, on en a parlé, des fragilités financières à venir, le pouvoir d'achat, etc. Comment les fragilités qui peuvent toucher la sphère personnelle comme professionnelle, en fait, ont tout leur raison d'être dans l'accompagnement des entreprises et sont plus quelque chose qui relève de l'intime, mais bien font partie des missions et même des devoirs de l'entreprise.
Voilà, bon, quelques mots de ce qu'on pouvait dire sur ce moral des cadres, pourquoi il est important et pourquoi il faut le monitorer, quelques pistes de solutions. Eh bien, ça ne va pas arranger leur moral, c'est ce dont on va parler juste après. Un cadre sur sept a déjà été découvert à la banque à cause de ses notes de frais. Ouais, on va en parler dans quelques minutes. Merci beaucoup Delphine Cochet de Ma Bonne Fée et merci beaucoup David Mahé de Human & Work.
Merci Lorraine.
Merci Lorraine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Business Case.
Le business case de la semaine, c'est ce chiffre délirant. Un cadre sur sept qui a déjà été à découvert bancaire à cause d'une note de frais. Alors ça vous concerne peut-être. Vous voyez, la note de frais, c'est toujours le premier irritant dans les entreprises. Et c'est pas Tristan Letorte qui va dire le contraire. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Mooncard. C'est vous qui publiez cette étude déprimante. Comment ça peut être encore un problème aussi quotidien ou en tout cas mensuel pour autant de gens, les notes de frais?
Bah effectivement, le quotidien encore des gens, c'est de payer avec leur carte personnelle en général, de remplir des fichiers, d'agrafer des tickets, et puis de porter ça à la comptabilité, qui elle-même ressaisit tout à la main. Enfin bref, on est encore en préhistoire. Et au-delà du sujet de la productivité, de l'agacement que ça génère, il y a un impact financier. Et c'est de moins en moins accepté, j'ai envie de dire, par les collaborateurs. Et effectivement, un des chiffres de notre étude, qui nous a marqué, même nous, c'est qu'un cadre sur sept s'est déjà retrouvé en situation de découvert.
Avec des agios, ça veut dire.
Oui, c'est-à-dire que non seulement on avance de l'argent, non seulement, alors on a des témoignages d'ailleurs de gens qui nous écrivent en disant bah, « je fais la banque de mon entreprise, c'est pas mon rôle », voilà. Et donc je fais la banque et en plus je paye moi-même mes agios parce que je suis pas remboursé à temps.
Alors ça, c'est un des chiffres qu'il faut retenir. C'est quand même 2,5 millions de salariés qui sont concernés par ces histoires de notes de frais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chiffre qu'on peut retenir de votre étude avec l'IFOP?
Alors nous, c'est notre quotidien, effectivement. Nous, on baigne dans des gens, des directions financières, des CEO, des patrons et des salariés qui se plaignent. Un premier chiffre, c'est que déjà 80% des cadres réalisent des notes de frais. Dans les grandes entreprises, c'est en général 8 en moyenne par an. Et dans les petites entreprises, c'est le double, c'est 17. Probablement parce que dans une petite entreprise, au fait, on achète plus de choses, c'est moins structuré. Donc on se déplace et puis on achète des meubles, des services sur Internet.
Voilà. Alors un tiers des cadres en difficulté financière à cause de ces notes de frais. Il n'y a pas un cadre légal qui vient encadrer quand même un petit peu tout ça?
Et non, alors nous on espère contribuer à ça. Nous, notre approche quand on a créé Mooncard, c'est de dire que bon, il existait déjà des applications et des systèmes plus ou moins archaïques, hein, parce qu'en général, les applications de notes de frais, les gens s'en plaignent. On l'a aussi mesuré dans notre étude. Et notre approche a été de dire, il faut aussi gérer le sujet de l'argent. Et donc, il faut mettre à disposition notamment une carte de paiement. Donc, c'est ce qu'on propose.
C'est ce que vous faites chez Mooncard, on va quand même le dire un moment.
Mooncard, voilà. Donc, ça, c'est une carte de paiement et un logiciel aussi pour toute la partie comptable. De sorte que bah, voilà, les collaborateurs n'aient plus forcément à avancer de l'argent. Mais que ce soit fait, alors dans un cadre, on parle d'argent, donc l'entreprise elle a envie évidemment de contrôler, hein, c'est pas juste un chèque en blanc, donc énormément de technologies autour du contrôle, du paramétrage de la carte, mais au moins la charge mentale du collaborateur est diminuée.
On a une petite pensée pour ceux qui nous écoutent dans la voiture, peut-être en direct ou en podcast, notamment avec la hausse des frais de carburant, et pour tous les collaborateurs et les collaboratrices qui sont en région, qui sont en province. Est-ce que c'est des chiffres que vous avez déjà pu remonter chez Mooncard, la hausse des notes de frais liées à l'essence ou au diesel?
Alors oui, nous on est au cœur du sujet parce que notre carte est utilisée à la fois dans des sujet d'achat de notes de frais de déplacement, mais également en situation de mobilité. On a une carte, on va dire, mobilité. On l'a mesuré d'ailleurs dans l'étude, puisqu'on a vu qu'en province, il y a près de 60% des cadres qui font régulièrement des achats d'essence. À Paris, c'est moins, hein, c'est plutôt 35-37%. On comprend bien les raisons. Hein, en province, il y a moins de transports en commun, des déplacements un peu différents. Parmi justement la situation de contraintes financières, elle était surreprésentée dans les gens qui faisaient des dépenses de carburant. La raison, c'est que le prix du carburant a eu un impact immédiat sur l'argent avancé par les collaborateurs.
Un dernier mot, vous avez un partenariat avec Flying Blue, donc avec Air France. Est-ce que vous observez, toujours avec la data que vous crunchez chez Mooncard, une reprise des voyages d'affaires, une reprise des business trips en avion ?
Oui, on a la chance d'avoir eu ce partenariat avec le programme de fidélité d'Air France KLM. On est l'une des seules solutions en Europe à avoir ça. Effectivement, alors on a vu la période Covid où les déplacements, d'une manière générale, et notamment en avion, se sont totalement effondrés. Là, ça a repris. Alors, il y a des organismes qui font des études dédiées à cette partie voyage d'affaires. Je crois qu'on est aux alentours de 70-80%. C'est pas dans notre étude, hein, mais...
Le volume actuel, c'est 70% du
montant pré-Covid. Par contre, il y a des postes de dépenses type l'hôtellerie, la restauration, qui, là, se rapprochent des niveaux pré-Covid. Et puis, surtout, ce qui est achats digitaux, des abonnements, des services, parce que les entreprises utilisent tout ça. Là, par contre, on a dépassé en moyenne les achats, donc on voit quand même, les entreprises se digitalisent.
Voilà quelques chiffres qu'on pouvait retrouver pour prendre le pouls de cette rentrée. Merci beaucoup Tristan Le Teurtre, vous êtes cofondateur de Mooncard. C'est la fin de cette émission. On a beaucoup parlé des managers, des équipes, des cadres et du moral. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre plateforme. Si vous avez votre smartphone dans la main, vous pouvez flasher le petit QR code qui s'affiche en podcast, en replay. Et puis sinon, c'est toutes les semaines, tous les week-ends. Retrouvez-nous. Merci beaucoup à toute l'équipe. À la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte. C'était votre...
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.